Avec Orange Monnaie, pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur les élections législatives en Côte d'Ivoire. Quel sera le visage de la nouvelle Assemblée nationale ? Actuellement, la coalition au pouvoir dispose d'une écrasante majorité. 90% des 250 députés sont dans la mouvance présidentielle. Il faut dire que l'opposition, le FPI, avait boycotté les législatives de 2011. Le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo avait d'ailleurs également boycotté, rappelez-vous, les municipales et le référendum constitutionnel du mois dernier. Mais aujourd'hui, le FPI est plus que jamais divisé. Nous avons donc deux branches, l'une menée par Abdourahmane Sangaré qui persiste dans sa logique de tout boycotter et l'autre menée par Pascal Afinguessan qui a décidé de rompre avec la politique de la chaise vide. Alors quelle stratégie vous semble aujourd'hui la plus efficace ? À quoi a servi finalement le boycott toutes ces dernières années ? On en parle ce matin et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler de Côte d'Ivoire évidemment pour commenter la perspective des législatives qui se tiendront le 18 décembre dans tout juste 5 semaines, 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, évidemment, vous composez le 09 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, vous le savez, c'est votre rendez-vous pour mieux comprendre l'actualité, toutes vos questions, pour mieux décrypter les sujets que vous entendez tout au long de la journée sur l'antenne d'RFI. Encore et encore et encore des questions après la victoire de Donald Trump. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci de nous accorder encore quelques minutes de votre emploi du temps. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, spécialiste des États-Unis. On vous doit plusieurs ouvrages, dont l'un portant sur Ronald Reagan. Reagan aux éditions Perrin. Je vous propose, Françoise Coste, de passer tout de suite au standard et d'accueillir notre premier auditeur. Il nous appelle de Dakar. Yagou Badalao, bonjour.
Bonjour Juan, et merci de l'occasion.
Eh ben, je vous en prie, on est là pour ça, pour vous écouter et vous donner la parole. On vous écoute, allez-y.
Évidemment Juan, voyons les 200 000 voix de vote d'Hillary Clinton devant son rival. Les élections, je vous en prie, voyons Juan, les 200 000 voix de Hillary Clinton devant son rival. Les résultats finaux donnent l'avantage à Donald Trump. Et cela, grâce au vote de...
Bon, vous avez qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit moment de panique, j'ai l'impression, mais ne vous inquiétez pas. On me disait hors antenne, vous aviez un peu le trac de passer à la radio. Ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien. Vous vouliez comprendre pourquoi, malgré donc les 200 000 voix supplémentaires obtenues par Hillary Clinton, Donald Trump a fini par remporter ce scrutin. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose et vous vouliez savoir exactement si il était possible de remettre ce système électoral qui est de plus en plus contesté. Françoise Coste, il faut quand même préciser qu'on n'est plus à 200 000 voix de différence, on est déjà à un peu plus de 500 000 voix entre Hillary Clinton et Donald Trump.
Oui, et cela ne risque que de s'agrandir puisqu'on n'a pas encore les Américains n'ont pas encore tout dépouillé. Et la raison qui explique ce qui est quand même aberrant, je crois que dans aucune autre démocratie on n'accepterait ça, mais la raison, elle est institutionnelle, c'est le collège électoral, c'est-à-dire que c'est pas comme en France où l'élection est directe. Les électeurs n'élisent pas le président, ils élisent des grands électeurs au niveau des États qui, eux, élisent le président. Et c'est cette étape intermédiaire qui explique la différence.
Ouais.
Et ça fait deux fois en 16 ans.
Deux fois en 16 ans et quatre fois dans l'histoire des États-Unis qu'un candidat remporte le scrutin avec moins de voix que son rival. Et pour l'anecdote, les quatre présidents qui ont été élus sans remporter le vote populaire ont tous été républicains. Ça vous fait sourire.
C'est juste une coïncidence heureuse, non ?
Non, mais je ne sais pas.
Disons que moi, quand j'étais étudiante, cette possibilité arithmétique et institutionnelle que le perdant gagne, c'était toujours un truc archaïque qui remontait au 19e siècle, c'était une vue de l'esprit. Et là, je crois que franchement, si la situation était à l'inverse, c'est-à-dire que si, dans l'époque contemporaine, deux fois en 16 ans, donc en 2000 et en 2016, c'était l'inverse, que c'était le Parti républicain qui avait gagné le vote populaire et qui avait perdu malgré tout la Maison Blanche, je pense que là, le Parti républicain serait vent debout et exigerait une réforme des institutions et l'abolition du collège électoral.
Ouais. On peut justement envisager une modification des règles pour les prochains scrutins ou pas ?
Je n'y crois absolument pas. Parce que justement, comme ça nécessiterait une réforme institutionnelle, il faudrait un amendement.
Mmh. Et un amendement de la Constitution. Hein.
Ouais. Et pour qu'un amendement soit voté, il faudrait qu'il soit soutenu par deux tiers du Congrès, qui est dans les mains républicaines. Donc là, voilà. Et c'est pour ça que dans le court terme, tant que le Parti républicain domine, comme le système, vous l'avez dit, lui, il le favorise, mmh. il ne va pas le demander. Et en plus, à plus long terme, changer ce qu'ont voulu les pères fondateurs, ce serait symboliquement tellement énorme au point de vue de ce que ça signifierait que les créateurs du pays, les hommes qui ont écrit la Constitution se sont trompés, que je pense que la force des habitudes serait trop forte et l'emporterait sur le désir de réforme.
Ouais, en tout cas, il y a plus de 4 millions de personnes qui ont signé une pétition demandant aux grands électeurs d'élire Hillary Clinton. On rappelle tout de même que les grands électeurs, le collège électoral se réunira le 19 décembre pour voter. Dans les faits, évidemment, il est possible que les grands électeurs élisent Hillary Clinton. Mais enfin, en soi, cette demande n'a aucune chance d'aboutir.
Non, ouais, non,
on est d'accord.
De toute façon, même si on devait changer le système, on ne pourrait pas le faire rétroactivement. Ça, je veux dire, les règles, elles sont peut-être injustes, mais elles sont ce qu'elles sont. Mmh. Et Donald Trump a gagné dans les règles.
On repasse au standard, Françoise Coste, avec Nicolas, qui est en ligne de Lomé, au Togo. Bonjour Nicolas.
Bonjour Juan Gomez, bonjour la dédicace de RFI.
On vous écoute.
Merci. La diplomatie américaine n'a pas été du tout bonne en Asie, notamment en Philippines, au Pakistan et au profit de la Chine ces derniers moments. Juan, ma première question, l'élection de Trump peut-elle changer la donne?
Changer la donne en Asie du Sud-Est. On voit bien, Françoise Coste, que la victoire de Donald Trump a créé une vive inquiétude, notamment chez les alliés historiques des États-Unis. Je pense au Japon, à la Corée du Nord. Comment l'expliquer ? Et la Corée du Sud, autant, excusez-moi, quel lapsus.
Il faut anticiper un peu.
Non. Comment expliquer ces inquiétudes ?
Alors, d'abord, Trump, on le voit, était... La politique internationale, c'est pas sa tasse de thé. En même temps, rien ne semble vraiment le passionner. Mais on voit qu'il n'en a pas beaucoup parlé et il en a mal parlé. Il était mal entouré, il n'a pas beaucoup de spécialistes autour de lui de cette question. Quand il en a parlé, c'était d'une façon très hostile, en particulier par rapport à la Chine, en promettant en mettant fin au libre-échange, et donc en particulier en imposant une taxe douanière, qui l'a dit parfois, qui pourrait aller jusqu'à 45% à des pays comme la Chine, qui bien entendu inonde les marchés américains de produits à bas coût.
Ouais. Enfin, augmenter de 45% les tarifs douaniers sur les importations chinoises, c'est clairement une déclaration de guerre commerciale.
Oui, oui. Mais irréaliste. Déjà, enfin, quitte à mettre une taxe, mettons-la à 3%, ça va aller d'emblée à 45%, c'est tellement excessif que ça, voilà, exactement, ça le devient irréaliste. Et surtout, c'est déclarer la guerre à la Chine, comme une guerre commerciale, mais aussi une guerre économique aux élites américaines, aux grandes entreprises américaines qui, elles, bénéficient du libre-échange. Et donc là, on peut anticiper un clash très intéressant entre le président républicain et le monde des affaires qui est d'habitude très proche du Parti républicain.
Enfin, en tout cas, hier, le président chinois et Donald Trump se sont entretenus au téléphone et tout semble indiquer, d'après les médias d'État chinois, que la conversation était plutôt détendue. Donald Trump a dit que la Chine était un grand pays, que les États-Unis et la Chine allaient essayer d'entretenir des relations gagnant-gagnant, mutuellement bénéfiques. Hein, c'est ce que disent les médias d'État. Ce qui n'empêche que le Japon, la Corée du Sud sont quand même inquiètes.
Mais bien entendu, parce que les rares fois où Trump a parlé de politique étrangère sans se contredire, c'était pour dire que l'OTAN coûte trop cher, que les alliés coûtent trop cher et que c'est à ces pays-là de payer pour leur propre défense. Alors en Asie, effectivement, ça concerne tout particulièrement le Japon et la Corée du Sud, ou bien entendu, c'est les troupes américaines qui, le long de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, protègent Séoul, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Ouais. Donc si ces Américains, si ces soldats américains partent, dans la péninsule coréenne, l'équilibre sera très vite rompu.
Effectivement, on rappelle qu'il y a 60 000 GIs déployés au Japon et en Corée du Sud. Toute la question aujourd'hui, François Scott, c'est de savoir si Donald Trump mettra ses promesses à exécution et s'il retirera notamment les contingents américains basés dans cette région.
Moi, j'ai du mal à le croire. C'est-à-dire que ce type de promesses, c'est typiquement, je suis désolée de le dire, il est élu maintenant, mais c'est une remarque de café de commerce de quelqu'un qui n'est pas spécialiste et qui a l'impression de parler de, avec c'est du bon sens, ça nous coûte trop cher, on n'a pas assez d'argent à la maison, on va faire des économies en faisant revenir les GIs. Certes, ça paraît logique, mais ensuite, que le président explique ça à l'armée américaine, à l'ONU, aux alliés, aux chefs d'état-major de l'armée, c'est quand même une remise en cause du très, voilà, c'est tellement énorme, c'est une remise en cause de toutes les institutions internationales et de l'équilibre international né de la Seconde Guerre mondiale.
Effectivement. Remise en cause de tous les traités conclus entre les États-Unis.
Et de toutes les institutions.
Effectivement. On va repasser au standard, François Scott. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent, évidemment, depuis quelques jours. Lauriane, bonjour. Lauriane, à Brazzaville.
Oui, bonjour, Fran, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Oui, j'appelle pour savoir, en fait, j'ai regardé l'électorat de Donald Trump et j'ai constaté qu'il y avait plus de 40% de l'électorat qui était féminin. Et j'aimerais savoir comment expliquer, enfin j'aimerais connaître la raison du vote des femmes à l'encontre d'une personne qui a quand même tenu des propos extrêmement virulents vis-à-vis de la junte féminine.
Ouais, effectivement, on a du mal à le comprendre, Françoise Coste. Donald Trump qui tient tout au long de la campagne des propos misogynes, il a eu des comportements sexistes, il a même été accusé de harcèlement sexuel, et pourtant 42% des femmes ont voté pour lui.
Ça, c'est encore une aberration, j'utilise beaucoup ce mot ce matin, mais il faut affiner. Ce qui est très parlant, c'est qu'il a eu la majorité du vote des femmes blanches. Les femmes hispaniques, les femmes noires, les femmes célibataires, les mères célibataires ont voté majoritairement pour Hillary Clinton. Donc là, il y a la question de la division raciale qui s'ajoute à la division par sexe. Et effectivement, les femmes blanches ont, c'est-à-dire elles n'ont pas du tout été sensibles à l'argument historique d'avoir une femme présidente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a, et ça a toujours existé, hein, des relents antiféministes chez les femmes américaines? Les femmes, souvent, donc là, pour le coup, mariées, femmes au foyer, sans grandes études, qui, depuis les années 60 et l'émergence du féminisme moderne, se sont souvent senties, en fait, menacées, paradoxalement, par le féminisme en disant « Mais moi, je n'ai pas envie d'aller à la fac, j'ai pas envie d'être docteur, j'ai pas envie d'être avocate, comme Hillary Clinton, j'ai envie de rester à la maison, d'élever mes enfants. » Et c'est vrai que le féminisme ne sait pas parler à ces femmes-là, les rassurer. Et Hillary Clinton non plus, d'ailleurs.
Et on peut dire que ces Américaines blanches, donc, ont voté pour Donald Trump pour les mêmes raisons que les hommes blancs?
Oui. Par exemple, en étant sensible aussi à l'argument que Trump a beaucoup plus martelé qu'Hillary Clinton, de l'interdiction de l'avortement. C'est-à-dire que ces femmes blanches sont souvent chrétiennes pratiquantes, et donc mobiliser, sensibiliser. C'est-à-dire que les premiers sondages sortis des urnes et les premières enquêtes montrent que beaucoup de ces femmes disent « Pour moi, la question principale du débat, pour des raisons religieuses, c'est l'avortement. » Et ça prend le pas sur justement tout ce que vous avez dit. Il est peut-être misogyne, il est vulgaire, mais il a promis de nommer des juges anti-avortement. C'est plus important pour moi.
Ouais, promesse confirmée d'ailleurs dimanche lors d'un entretien accordé à la télévision américaine. Françoise Coste, une dernière question et on vous libère. Qui avons-nous ? Zachary, bonjour.
Bonjour, Monsieur Bonne. Ma question est simple. Lors de la campagne électorale, Monsieur Dedan a déclaré que s'il est élu, il portera plainte contre son adversaire. Je voudrais savoir comment cette plainte peut être introduite, acceptée, étudier et évoluer jusqu'à son terme.
Oui, plainte concernant l'affaire des emails d'Hillary Clinton. Il avait même menacé lors d'un débat, le deuxième débat, il me semble, sa rivale, qu'elle irait en prison, Françoise Coste. Ira-t-il jusqu'au bout? en quelques mots.
J'en doute. C'est vrai que c'était une promesse de fondamentale. Dans ces meetings, tous les gens criaient « locker up, mettez-le en prison ». Mais maintenant, le FBI a dit que de toute façon, il n'y avait rien dans ses fichus e-mails. Maintenant qu'il a remporté l'élection, on peut se dire qu'il va être magnanime et laisser Hillary libre. De toute façon, en même temps, lui, on pourrait peut-être penser qu'il va mettre de l'eau dans son vin. Mais en même temps, du côté du Congrès républicain, certains congressmen républicains disent « Non, elle a quand même enfreint la loi, on continuera à enquêter ».
Merci Françoise Coste d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, spécialiste de la politique intérieure américaine. On va continuer à parler de Donald Trump, une question qui nous arrive, mais surtout la victoire de Donald Trump et la réaction en France de Marine Le Pen. Abdourahmane, bonjour.
Bonjour Yann.
Vous êtes à Dakar, au Sénégal, on vous écoute.
Oui, bonjour, bonjour les auditeurs. Marine Le Pen a salué l'élection de Donald Trump avec enthousiasme. Quels sont les points politiques communs entre Marine Le Pen et Donald Trump?
Alors, c'est vrai que depuis mercredi dernier, Marine Le Pen n'a cessé de multiplier les félicitations à l'égard de Donald Trump. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue et chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'extrême droite. Quels sont les points communs entre Donald Trump et Marine Le Pen? Marine Le Pen qui jubile tout de même depuis la victoire de Donald Trump.
Ce sont d'abord des points communs de sociologie électorale, puisque on voit que le Front National réussit assez bien dans les couches populaires déclassées, parmi ceux et celles qui sont victimes de la globalisation libérale ou qui la craignent, avec cependant une différence notable. Donald Trump est sans doute le candidat des classes populaires, mais il a aussi remporté 50% des suffrages des couches de la société américaine ayant les plus hauts revenus. Et là, le Front National, qui voudrait bien évidemment le limiter, en est très très loin. Ça, c'est le premier point. Sur les questions de programme, il y a effectivement des convergences. D'abord sur le fait que l'Amérique ne se mêle plus d'intervenir à l'extérieur. C'est un point important. Sur le refus du libre-échange, sur le traité transatlantique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les matrices sont les mêmes. Les racines de la victoire de Trump, elles sont à chercher dans un bouleversement complet des fondamentaux idéologiques du Parti républicain, un bouleversement qui s'est fait sur plusieurs décennies et qui a trouvé son aboutissement avec le plus incroyable, qui à mon avis n'est pas l'élection de Trump, mais sa nomination comme candidat du Parti républicain lors de la convention.
Effectivement. Marine Le Pen se présente comme une femme libre. Donald Trump, lui aussi, tout au long de la campagne, s'est présenté comme un homme libre, libre à l'égard des lobbies financiers de Wall Street, des marchés. Vous pensez que c'est un discours qui peut également séduire en France ?
C'est effectivement un discours qui peut séduire en France, mais la différence là aussi, que quand on regarde la liste des personnes que Trump considère comme de possibles futurs membres de son cabinet, bon, pour l'instant tous les postes ne sont pas attribués, mais on voit beaucoup de gens qui sont cités et qui sont issus du milieu du monde des affaires, qui ont été des dirigeants exécutifs de grandes compagnies américaines. Je pense que si Marine Le Pen se mêlait de faire la même chose en France, d'abord elle n'en a pas les moyens parce que les milieux d'affaires ne lui sont pas acquis, et ensuite ça aurait certainement des répercussions extrêmement négatives sur son électorat. Ce qu'il y a de fabuleux avec Trump, c'est qu'il a pu, dans un discours électoral, je crois 3 jours avant le scrutin, nous expliquer ceci. J'étais un insider, j'étais quelqu'un du système, et puis un jour, je me suis dit que finalement le système, il était pourri. Alors j'ai changé casaque. Et maintenant, je suis non seulement quelqu'un de l'extérieur du système, mais encore le pire adversaire du système. Bon, je pense que ce langage-là ne passerait pas nécessairement auprès des électeurs de Marine Le Pen.
Merci Jean-Yves Camus d'avoir été quelques minutes avec nous. Je rappelle votre dernier ouvrage publié aux éditions du Seuil, Les droites extrêmes en Europe. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, surtout, n'hésitez pas. Continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de notre émission, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. À suivre le journal et on reviendra tout de suite après pour débattre de la stratégie de l'opposition en Côte d'Ivoire à quelques semaines des élections législatives. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.